Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Donald Trump l'a dit en meeting, il est vexé. Vexé parce que Vladimir Poutine, qu'il dit si bien connaître, a apporté son soutien à Kamala Harris. Le président russe favorable au camp démocrate, faut-il vraiment le prendre au premier degré comme Trump? Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Alors déjà, toi qui connais mieux la Russie que Donald Trump, je ne prends pas trop de risques en le disant. Comment tu as pris justement cette déclaration? Je la refais un peu in extenso. Il dit que jusque-là, c'était Joe Biden le candidat. Kamala Harris est dans le même camp. Elle a en plus un sourire si contagieux, si expressif, c'est qu'elle se porte bien. Et du coup, elle ne lancera pas des sanctions comme Donald Trump avait pu le faire. Moi, je rappelle aussi que Donald Trump n'était plus président des États-Unis quand la Russie a lancé sa guerre d'agression contre l'Ukraine.
Mais il était déjà quand même après 2014, en 2016, quand la guerre avait quand même déjà lieu. Donc c'est aussi pour ça que pour le Kremlin, c'est intéressant parce qu'on a déjà une expérience du Trump quand même dans la guerre en Ukraine. Oui, c'est assez intéressant que Donald Trump ait réagi à cette remarque parce que, en fait, en Russie, Vladimir Poutine, il a un objectif, c'est de ne pas s'ingérer ouvertement dans une élection étrangère. C'est-à-dire qu'il a plein d'outils autour de lui pour le faire. Et on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais notamment Russia Today qui risque de ne pas survivre cette élection présidentielle américaine. Aux États-Unis du moins. Et donc l'idée, c'est de ne pas donner d'eau au moulin de ceux qui disent « Regardez, la Russie s'ingère », en gros, pour ne pas faire d'ombre à Donald Trump, finalement, puisque c'est quand même une accusation qu'il a sur le dos depuis le tout début.
2016.
Donald Trump. Voilà. Et donc Vladimir Poutine, quand on lui demande, parce que là, c'est ce qui s'est passé récemment, quand on lui a demandé qu'il soutenait durant cette élection présidentielle, il ne voulait pas répondre. Et donc il a fait une petite blague. Il a dit, on en parlait, mais avec un sourire en coin qui est de plus en plus difficile à déterminer et à comprendre, évidemment que je soutiens Kamala Harris. Et donc l'information, elle a un peu été reprise premier degré comme ça dans le monde entier. Alors que finalement, en voyant les images, on a vraiment la sensation que c'est une blague de Vladimir Poutine qui ne soutient jamais personne. Et à vrai dire, il est certainement plus favorable, il espère certainement la victoire de Donald Trump, mais il n'attend jamais rien des pays ennemis, Vladimir Poutine. Et donc, en fait, il n'irait pas jusqu'à soutenir quelqu'un en tant que tel. La Russie attend que le pays d'en face fasse le premier pas, mais dans le principe, la Russie n'attend rien du tout de ses opposants.
Alors moi, je prends ma casquette également de spécialiste des questions américaines. Quand je vois que Donald Trump le prend au premier degré, il le prend au premier degré trumpien. Ce n'est pas le choix politique de Vladimir Poutine vers Kamala Harris. C'est le choix presque physique. Et il finit par dire, je crois qu'il l'a dit en souriant. Oui, il l'a dit en souriant. Tu sais, dans ses meetings, il parle aux militants, mais il se parle à lui-même aussi à voix haute. Et il y a un élément que les gens qui ne suivent pas forcément la politique américaine doivent savoir, c'est que parmi les attaques physiques contre Kamala Harris, non pas forcément Donald Trump, mais de ses soutiens, il y a les attaques sur le rire de Kamala Harris, qui est un rire à gorge déployée, à dents toutes blanches et bien en vue, et c'est pris vraiment en défaut sur un rire tout à fait béat, voire forcé. Et donc moi, quand j'entends Vladimir Poutine en parler, même sur le ton de la blague, je me dis quand même, il s'ingère sans s'ingérer. Tout ça est totalement su. Je rajouterai une petite phrase de Donald Trump en une forme d'aveu d'échec. Il a de toute façon 19 longueurs d'avance sur nous.
Oui, et puis c'est quand même la preuve qu'en Russie, on surveille de très très près ce qui se raconte, ce qui se dit, comment se déroule la campagne américaine, qu'on comprend à qui on a affaire. Il est en plus, à mon avis, impossible dans la Russie d'aujourd'hui que le président soit attiré politiquement par quelqu'un comme Kamala Harris. Enfin, c'est une femme noire. Enfin, ça fait deux blocages. Enfin, ça fait deux choses, deux points qui rendent tout partenariat politique, toute relation politique possible. Enfin, je n'imagine même pas particulièrement Vladimir Poutine parler à une femme noire américaine dans un monde où la Russie et les États-Unis s'entendraient mieux. Enfin, c'est quelqu'un qui de toute façon ne pourrait pas, à mon avis, créer ce genre de relation. Et pour ce qui est de Donald Trump, oui, c'est effectivement assez amusant à voir, en tout cas certainement depuis le Kremlin, qu'il prend tout personnellement, que c'est quelqu'un de très émotif finalement. Il voudrait que le monde entier soit son ami, Donald Trump. Et la Russie, c'est vraiment l'opposé. C'est, on n'a pas d'amis, on n'aura jamais d'amis. Et on se débrouille tout seul, entre nous. Et si on trouve des idiots utiles à utiliser, par contre, pour faire avancer nos intérêts dans le monde, eh bien, on va les utiliser. Et Donald Trump, c'est un des premiers idiots utiles de Russie, finalement, dans cette situation.
Mais Donald Trump, il le dit. Moi, je connais bien Poutine, je connais bien Zelensky. On y reviendra, mais moi, il suffit qu'il s'assoie deux secondes avec moi et la paix, on l'a en 24 heures. Je te charge, Paul, d'avouer à Donald Trump que s'il est l'ami de Poutine, Poutine n'est pas l'ami de Donald Trump.
Poutine a peu d'amis quand même. Hein. Je veux dire, même dans le logiciel Poutine, les gens de ce qu'on appelait la bande de Saint-Pétersbourg qui ont grandi alors physiquement, mais surtout économiquement, financièrement autour de Vladimir Poutine, notamment dans les années 90 à Saint-Pétersbourg. Déjà, quand on regarde les photos d'époque, il y a pas mal des amis de Poutine qui ne sont plus de ce monde ou qui sont derrière les barreaux ou qui sont en exil. Et on parle de gens qui ont le même logiciel que Vladimir Poutine, qui ont grandi au même endroit. Tu sais, c'est très important en Russie.
Le clan.
Voilà, c'est le clan. Alors, Donald Trump, qui a mis lieu de toute cette culture, de toute cette famille de Saint-Pétersbourg, évidemment qu'il ne peut pas être l'ami de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, il n'a pas d'amis étrangers, finalement. Et même les présidents avec lesquels il s'entend, ou il a l'air de bien s'entendre, on va dire, on comprend très régulièrement que ce ne sont pas ses amis. À la limite, son premier ami, Loukachenko en Biélorussie, c'est vraiment un ami comme on n'a pas forcément envie d'avoir, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il peut, il essaie de glisser des petits tacles à Vladimir Poutine. Il passe sa vie à essayer de rappeler au monde entier que la Biélorussie, c'est pas la Russie. Enfin, c'est un ami de circonstance, comme tout le monde visiblement autour de Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc les vrais amis de Vladimir Poutine, je ne sais même pas si on peut les nommer. Je ne saurais pas forcément moi-même vous les nommer. Je ne sais pas qui sont ces vrais amis aujourd'hui. Mais en tout cas, Donald Trump est très très loin dans la liste et ce n'est pas un ami.
Alors comment il est décrit finalement par le Kremlin?
Ben alors, le Kremlin, pour l'instant, évite en fait de jouer à ce jeu parce que je rappelle à ceux qui nous écoutent que quand on est correspondant en Russie, il y a une petite tradition régulièrement, plusieurs reprises durant la semaine, vers 11h, heure de Moscou, Dmitri Peskov passe un appel aux rédactions russes et internationales. Donc, ça explique peut-être que vous avez remarqué pourquoi, quand il y a des citations de Dmitri Peskov, qui est donc le porte-parole de Vladimir Poutine, on ne le voit pas physiquement. C'est souvent un texte qu'on affiche à l'écran avec des guillemets, parce qu'en fait...
C'est un verbatim.
Voilà, c'est par téléphone. Alors, ce n'est pas du off, par contre. Tout peut être utilisé. Alors, à mon avis, il y a peut-être des moments dans la discussion où lui demande à ce que les choses ne soient pas répétées. Mais la plupart du temps, le principe, en tout cas, c'est que ce ne soit pas du off. Et donc, c'est la façon principale pour Vladimir Poutine et Dmitri Peskov de communiquer, et notamment aux étrangers. L'agence France Presse, qui a encore un bureau à Moscou, par exemple, participe à ce petit briefing. Et donc, j'en parle parce que régulièrement, on lui pose à Dmitri Peskov, qui est donc la voix de Vladimir Poutine, des questions sur l'élection présidentielle, ce qu'il en pense. Hier, il y avait des questions sur ce qui s'est passé sur le golfe de Donald Trump, comment la Russie réagit. Et c'est presque neutre, c'est froid, c'est mou, c'est...
C'est vu de l'extérieur.
Voilà, nous, on ne tient pas à s'ingérer dans la politique étrangère américaine. On observe juste qu'il y a de plus en plus de violence dans cette campagne. Et après, bon, il y a d'autres voix officielles qui vont aller peut-être un peu plus loin en expliquant que plutôt que d'aider l'Ukraine financièrement, peut-être que si les politiciens actuels qui sont au pouvoir actuellement aux États-Unis développaient leur pays, amélioraient les conditions de vie de leur pays, ça bénéficierait plus à leurs citoyens. Enfin, c'est toujours l'idée d'essayer de diviser les sociétés. Enfin, en tout cas, au Kremlin, on essaye de ne pas s'ingérer
officiellement
avec la voix officielle dans les situations politiques des autres. Après, ils ont plein d'autres outils qui le font.
Alors, on peut en parler hein, quelques minutes, parce qu'il y a notamment un dossier Russia Today. Les Américains prennent ça très au sérieux, avec en plus l'idée, cette fois, que ce n'est pas forcément à sens unique. En 2016, il y avait clairement de l'ingérence pour faire voter pour Donald Trump. Il y avait une campagne totalement anti-Hillary Clinton. Ça a été documenté. Là, on a l'impression que tout le monde prend, si je parle vulgairement.
Oui, alors il existe. En fait, il y a beaucoup de doutes. On n'a pas forcément, au sein de la presse russe, au sein des autorités russes, et on n'a pas forcément gardé un souvenir incroyable non plus hein, du dernier passage de Donald Trump au pouvoir. C'est quelqu'un qui est manipulable, donc ça, on aime beaucoup. Je regardais encore tout à l'heure, a priori, les premières tentatives du KGB à l'époque pour essayer d'influencer, en tout cas de comprendre où allait monter ou pas Donald Trump. Ça date quand même des années 70, et notamment qu'il a rencontré Ivana Trump et les Soviétiques avaient des services de renseignement République tchèque qui étaient visiblement très engagés autour de sa femme, qui était vue comme une porte d'entrée pour commencer à tisser des liens avec Donald Trump officiel ou secret, en tout cas pour le surveiller. Donc il y a quand même toute cette histoire.
Ça m'intéresse, ça. Là aussi, on fait encore un détour. Le dossier Ivana Trump. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Il y a eu quelque chose. On sait que les services tchèques, c'était quelque chose aussi
oui,
en termes d'espionnage.
Ce dont je te parle là, c'est Politico qui en avait fait un dossier il y a quelques années. Et ça, bon, ça me semble correspondre à une technique d'espionnage qu'on voit encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec certains opposants en Russie hein, qui ont parfois des mauvaises surprises. L'idée, c'est de passer par un proche pour atteindre la personne. Je pense que tous les services du monde utilisent ces techniques-là. Et donc, dans les années 70, visiblement, sa femme... Alors, lui, il était très surveillé, ça, c'est certain, parce qu'il a eu des contacts, même, a priori, directs, parce que juste quand il venait... Alors, un peu après, quand il a commencé à faire ses voyages en Russie, l'idée, c'était quand même de comprendre ce qu'il venait faire en Russie. Et ça, je pense que tous les grands entrepreneurs étrangers qui vont en Russie ou qui y allaient, en tout cas, avant la guerre, passaient par là, quoi. Il y a un moment, vous êtes un peu obligé de rencontrer les services de renseignement pour donner vos intentions, expliquer ce que vous venez faire ici. Donc, Donald Trump, il n'a pas échappé à
faire
l'époque.
Faire du business.
Et a priori, quand il a commencé à aller faire son business, c'était notamment des projets immobiliers à Moscou, eh ben, il y avait déjà des gens dans son dos depuis pas mal d'années qui surveillaient voilà, toutes ses activités et qui utilisaient ses proches et a priori sa femme pour essayer d'entrer un peu dans son intimité et comprendre où il allait et ce qu'il faisait.
Et alors, pour la suite, parce que là je t'ai laissé parler d'Ivana Trump, justement de ce dossier-là, depuis, il est vraiment suivi, mais exclusivement comme quelqu'un de manipulable, en fait, et pas un soutien politique affirmé.
Non, c'est ça. C'est, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de n'avoir confiance en personne. Quand vous êtes Vladimir Poutine aujourd'hui, je pense pas qu'il ait plus confiance le responsable chinois ou turc ou je ne sais qui. Enfin, voilà, l'idée, c'est de construire des partenariats. Mais de manière générale, surtout de voir ce qu'on peut prendre, ce qu'il y a à prendre dans telle ou telle situation. Et Donald Trump, c'est incroyable, c'est une porte ouverte sur les États-Unis pour Vladimir Poutine finalement, parce que c'est quelqu'un de très manipulable qui marche à l'émotionnel. Et donc quand Donald Trump dit des choses genre c'est mon ami, c'est mon ennemi, je l'adore, on se déteste ou je sais pas. Enfin,
c'est la cour de récré, voilà, t'es plus mon ami pour deux jours.
C'est ça, faut bien comprendre que pour un service de renseignement comme le FSB, c'est de l'or parce que quelqu'un qui voit le monde et qui réfléchit de cette façon-là, c'est quelqu'un qui est ultra facile à manipuler parce qu'il suffit d'aller lui dire que vous êtes son ami et puis bah, lui, derrière, il y a.
et puis plus sérieusement ou stratégiquement, oui. L'idée de manipuler Donald Trump, on l'a aperçu avec le 6 janvier 2021, c'est tout ce doute et ce chaos qui peut être entraîné par une victoire de Kamala Harris, parce que on le sait, les résultats, s'ils sont acceptés par Trump, ne le seront pas par une bonne partie de ses électeurs. Et ça, la stratégie du chaos, on rentre vraiment dans le plan de Moscou.
Et c'est là que les médias, les outils d'influence de la Russie se révèlent le plus, d'ailleurs. Parce que là, à partir du moment où on est dans une situation instable, comme à l'époque du Capitole, là, c'est open bar, quoi. C'est-à-dire que c'est le bordel dans le pays et il faut appuyer à fond sur la faille, il faut y aller au maximum. Et aujourd'hui encore, alors la porte-parole, on va dire, la plus radicale, aujourd'hui en Russie, alors si on met de côté Dmitri Medvedev, qui n'est pas porte-parole, mais qui est très radical, c'est Maria Zakharova qui est la porte-parole de Sergueï Lavrov des Affaires étrangères. elle, depuis le Capitole, elle explique quasiment toutes les semaines que les élections américaines étaient illégitimes, que le résultat n'avait pas été... les théories des Trumpistes, quoi, que le résultat n'avait pas été respecté. Ce qui permet aussi d'expliquer à son propre peuple qu'il n'y a pas plus de démocratie à l'étranger que dans leur pays et que finalement les Russes peut-être s'en sortent pas si mal. Donc il y a toute cette stratégie qui apparaît au grand jour finalement assez rapidement. Pendant la campagne, on essaie de se faire discret et encore, ce n'est pas toujours gagné. Et puis une fois que les choses explosent, alors là, tout le monde se révèle. Et c'est aussi, d'ailleurs, je le rappelle, le fonctionnement de Russia Today, parce qu'on a eu ce Russia Today quand même en France, RT, pendant quelques années. L'idée, c'est de se faire discret. Au quotidien, Russia Today faisait une couverture plutôt populiste, extrême droite de notre actualité. Ils connaissaient le cadre français, donc ils essayaient de ne jamais sortir du cadre, parce qu'il y avait quand même le CSA qui contrôlait les choses à l'époque. Et par contre, à partir du moment où une crise apparaissait, il y avait eu les Gilets jaunes à l'époque, alors là, tout le monde se révélait, c'était couverture maximum, c'était parfois fake news, c'était en tout cas désinformation, beaucoup. Et l'idée, c'était de se faire accepter sur le long terme, de gagner en audience, et d'avoir un outil disponible le jour où la crise apparaissait. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne aussi aux États-Unis. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que depuis quelques jours, Russia Today est au centre des débats aux États-Unis. Enfin, au centre des débats, il y a plein de débats aux États-Unis aujourd'hui. Mais qu'en tout cas, cette chaîne risque de ne pas passer l'automne parce que Margareta Simonian, la rédactrice en chef, n'arrête pas de se vanter de faire autre chose que du journalisme dans ses bureaux à l'étranger. Et elle a récemment parlé d'opérations que sa chaîne était en train de mener aux États-Unis. Et les Américains commencent...
C'est pas la bonne tactique.
Commencent quand même... Et ce qui est fou, je voudrais aussi le préciser au passage, c'est que ça correspond tout ça. C'est toujours tout est en miroir avec la Russie. On a des lois sur les agents de l'étranger en Russie dont le principe veut qu'on punisse des gens qui auraient reçu de l'argent de l'étranger. Il se trouve que quasiment plus personne ne reçoit de l'argent de l'étranger. Donc la réalité, c'est qu'on s'attaque aux opposants politiques. Et eux, ils font ça, en fait. Ils financent des dizaines de milliers de dollars, si ce n'est plus, aux États-Unis, pour des bureaux ou des boîtes de production qui collaborent avec Russia Today, avec plein de projets différents qui ont pour objectif de diffuser de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est vraiment ce qu'eux refusent d'avoir. C'est vraiment ce qu'eux refusent d'avoir dans leur propre pays et qu'ils essayent de mettre aux États-Unis. Ça montre quand même que dans les démocraties, on a moins d'outils, ou en tout cas, on n'est pas capable de réagir très rapidement à ce genre d'initiatives qui viennent de dictatures.
Est-ce qu'on se pense vraiment meilleur que les Américains ? Parce que là, tel que c'est décrit très officiellement, c'est un peuple décadent qui est au rebord du chaos démocratique également. Mais est-ce que Vladimir Poutine n'a quand même pas peur des États-Unis, comme les Américains ont peur de Vladimir Poutine pour une seule raison, et c'est la raison la plus intime qui soit, la dissuasion nucléaire.
Oui, de toute façon, une élection américaine, ça reste un moment, et on le voit depuis plusieurs mois, un moment clé dans la politique russe, c'est-à-dire que cette année en Russie, il y a eu l'élection présidentielle russe qu'il fallait gérer, et il y a l'élection présidentielle américaine qu'il faut gérer aussi. Et généralement, c'est pas tant l'élection qu'il faut gérer que les conséquences de l'élection, et ça vaut pour les deux élections d'ailleurs, que ce soit la russe ou l'américaine. Donc on observe tout ça, évidemment. On peut en venir aux fameuses 24 heures que Donald Trump promet d'utiliser pour conclure, je ne sais même pas comment lui appellerait ça, ce conflit en Ukraine, parce que l'idée, c'est de le geler, finalement, sans nous expliquer vraiment comment, puisqu'il pense, comme il pense que tout le monde est son ami, il croit que tout le monde va venir à sa table et puis qu'en quelques heures, ce sera réglé. Mais c'est pour ça que pour le Kremlin, on se dit que Kamala Harris, ce sera la suite d'une politique à la Biden qui, vue de Moscou, est dangereuse, mène à l'escalade et pousse le Kremlin à parler de nucléaire tous les trois jours. Trump, alors c'est un peu mieux parce qu'il y a des idées qui sont partagées avec le Kremlin, il est manipulable, mais il est aussi instable. Et on se rappelle encore une fois que la guerre ne s'est pas arrêtée pendant le mandat de Donald Trump, que finalement le soutien à l'Ukraine a perduré pendant ces temps-là. Alors je sais que Volodymyr Zelensky a eu beaucoup de mal à garder ce soutien et à convaincre Donald Trump, et qu'il était souvent obligé de passer par les conseillers, mais ça vaut pour plein de sujets, je crois, de Donald Trump pour pouvoir faire passer ses idées. Mais en tout cas, voilà, le Kremlin se méfie quand même de Donald Trump, parce que quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un de manipulable, mais qui peut aussi sortir des surprises de son chapeau, et on n'aime pas trop les surprises au Kremlin.
Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et cette surprise pourrait venir le 5 novembre prochain. On aura le temps de parler aussi de la politique de Kamala Harris et de Biden sur l'Ukraine, parce que là aussi les lignes sont en train de bouger. Le mot négociation revient assez régulièrement. Il nous faudra bien tout le temps d'un podcast, mais on y reviendra très vite. À la semaine prochaine, Paul. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur BFM Radio, bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.